Vous écoutez
RMC.
Attention, parce que là, les témoignages tombent. Damien Périnel nous écrit. Il nous dit... Moi, mon premier match, c'était à PSG Monaco, Tribune Boulogne, avec Ettori dans les buts. Et tout le club chantait « Ettori, il a un petit... »
Voilà. Zizi, ça rime.
Ça rime, voilà. Ouais, ouais. Ça l'a marqué, Damien, vraisemblablement, puisqu'il se souvient absolument de ça. voilà. Je recherche France-URSS en 80. Alors, en 80, Daniel, il y a eu un URSS France au stade Lénine à Moscou, donc je pense pas que c'est celui-là que t'es allé.
Non, je suis pas... Non, là, l'autobus de Ris-Orangis, il peut pas faire la distance. Hein.
Ça dépend, c'était quoi comme municipalité à Ris-Orangis à l'époque?
Ah, ça correspond complètement. Ris-Orangis, ça correspondait parfaitement à un voyage en URSS, je te le garantis.
Yes, alors, c'était une mairie communiste. En 77 et en 83. Donc, à choisir.
83
ouais.
Alors, 83, ok.
Ou 77.
Le 83 avec but de Louis ou pas?
Alors, suite 77, c'est 0-0. Donc, pas de but de Louis en l'occurrence.
Non, le 83, je suis sûr qu'il y a. Regarde s'il n'y a pas Louis qui marque.
Peut-être. On va regarder ça tout de suite. D'ailleurs, j'ai un message concernant ton match de Hugo qui nous dit c'est donc lors de ce France-URSS que Daniel est devenu un amoureux du communisme.
Non, ça c'est impossible.
Donc attends, 83, j'ai la fiche sous les yeux.
Ça, je serai toujours.
Jean-Pierre Tempé dans les buts, dis donc. Alors là, il y avait de
voilà,
la,
c'est
la,
ça.
Là, il y avait de l'équipe. Non,
je serai toujours, pour reprendre l'expression de Jean-Paul Sartre, un chien, puisque je suis anticommuniste et qu'il disait que tous les anticommunistes étaient des chiens.
Ah bon ?
Donc je suis un anti-Sartre et un chien.
Détail des buts. Premier but du russe Tchernenkov, enfin du soviétique, on disait à l'époque. Égalisation de Luis Fernandez à la 42e, tir à terre dans l'axe sur une ouverture d'Amis.
Absolument.
Voilà. Oh, Loïc Amis.
Exactement.
Loïc Amis.
Messieurs, on va continuer notre séquence souvenir. Là. On a Flavien avec nous. Salut Flavien.
Bonsoir à tous.
Flavien.
Bonsoir Flavien.
Et donc finalement, ça n'était pas le premier au final, parce que je n'ai pas retrouvé. Donc.
Flavien, t'as quel âge?
J'ai 25 ans.
Très bien. Donc toi, ton premier souvenir de foot?
Alors justement, je voulais en parler parce que en fait, vous avez chacun à votre manière participé de manière active dans mon éducation foot. Pierre, parce qu'il était sur le terrain pour mon premier match au parc, quand j'avais 6 ans.
Ouh.
Un PSG Rosenborg qui s'était terminé en 7-2.
C'était pas le plus mauvais match à voir pour débuter. Ouais.
Voilà, j'étais allé avec mon cousin et je m'étais retrouvé sous le maillot au PEL et je me rappelle encore que les mecs derrière moi fumaient de la beuh pendant tout le match.
Ouais, ça c'était pas propre à ce match-là, je pense.
Non, c'était tout le temps. Et puis après, Daniel et Gilbert, parce que j'écoute l'After depuis le premier jour, vu que j'écoutais les DKP avant, donc ça vous donne un peu idée. Et puis Jérôme, t'étais sur le terrain le jour de mon premier match à l'extérieur, à Bonal, un Sochaux PSG qui aurait dû valoir une statue devant le parc à Maradiané.
Ah, le fameux Sochaux PSG.
Le fameux match.
Voilà. Et Daniel.
C'est marrant parce que c'est les souvenirs dont vous nous parlez, c'est des matchs, tu vois, un peu des matchs de championnat, des choses comme ça, quoi.
Ouais. Mais c'est pas ça le souvenir, hein. C'est pas ça de ce dont je suis nostalgique. Et si je peux juste rajouter, Daniel, je t'ai interviewé il y a 3 ans pour mon mémoire de fin d'études sur l'équipe de France en tant que reflet de la vie politique et sociale française. Voilà. Donc ça a été la dernière étape dans mon éducation foot.
Très bien, je me souviens.
Et donc moi, les deux choses dont je suis nostalgique, ça va vous paraître bizarre et Daniel, ça va te plaire, c'est l'époque où on avait peu de matchs à la télé. Et on recevait pas les résultats directement sur nos portables, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on en voit tellement en fait qu'on apprécie moins les beaux matchs.
Mmh.
Et la deuxième chose, c'est l'équipe de France de Zidane, et notamment la Coupe du Monde du 2006. Et j'ai souvenir fameux qui illustre ça en fait. Et c'est la journée du samedi 1er juillet 2006. Mmh. En fait, c'est plus la journée que le match le soir qui était France-Brésil, parce qu'en fait ce jour-là c'était le jour de mes 12 ans.
Mmh.
Et je vivais en Angleterre en pensionnat. Et en fait, le match se terminait tellement tard qu'on n'avait pas le droit de le regarder. On n'aurait pu regarder que la première mi-temps. Donc pendant la semaine, je négocie avec les pions en disant que comme c'est mon ami, est-ce qu'on peut rester voir le match jusqu'au bout avec des potes? Et on me dit oui. Et le jour du match, je me réveille, mes potes me demandent ce que je veux, ce qui se passe aujourd'hui. Et je leur dis, voilà, il y a Angleterre-Portugal avant. Donc bon, grand amoureux de Paoletta et puis en même temps, je suis un peu provocateur. Je leur dis, le Portugal gagne et la France aussi. Et ils me disent bien sûr que les deux sont impossibles. Et pendant Portugal-Angleterre, si vous vous rappelez, c'est Rooney qui marche sur les bijoux de famille de Ricardo Carvalho.
Bien sûr.
Et je me fais insulter plus que gentiment, car au final, le Portugal les élimine. et arrive le fameux France-Brésil.
Ça se termine pas au péno, ce Portugal-Angleterre ?
Ouais, ça se termine
si,
au péno.
Bien sûr.
Ils sont éliminés au péno, ouais. Sur le péno de Simao.
Comme souvent les Anglais, hein, les pénaux, c'est pas leur truc.
Voilà. Et pendant le France-Brésil, ils me font la totale. Au bout de 5 minutes, ils me débranchent la télé pour que je regarde pas. Ils passent le temps à m'insulter. Si bien que quand Henri marque à la 56e, je pars en live en gueulant et en courant dans tout le pensionnat. Bien sûr, je me fais engueuler et punir avec tous mes potes. Et donc, on retourne dans nos chambres sans voir les 35 dernières minutes.
Oh. Aïe.
Donc, et à l'époque, j'ai pas de portable ni internet à disponibilité. Donc, je suis pas au courant du sport. Et dimanche matin, d'habitude, pendant la Coupe du Monde, les pions annonçaient le matin au petit-déj les scores des matchs de la soirée. Et là, ils refusent d'annoncer le score. Bon, un peu parce qu'ils sont rancuniers que l'Angleterre soit fait éliminer. Et puis aussi pour me punir. Et au final, j'apprends le score qu'au déjeuner. En fait, mon prof principal se dirige vers ma table au réfectoire. Et là, je pensais vraiment que j'allais passer un sale quart d'heure parce que généralement, quand il vient de voir, c'est pour punir plus qu'autre chose. Et en fait, il m'apprend le score final en me disant c'est 1-0. Et en gros, c'est une de mes plus grandes émotions de foot, même si je l'ai vécu 12 à 14 heures plus tard, le lendemain midi.
Incroyable, ce sont je pense génial. Français.
Génial.
Je vais aller plus loin. Depuis, j'ai revu le match 4 ou 5 fois et j'ai jamais dépassé la 50e minute. Je suis jamais allé plus loin. De peur
parce que tu veux pas.
Voilà, c'est exactement ça. Et j'ai peur de ternir le souvenir que j'avais de ce match-là. Et je suis sûr que si aujourd'hui je regardais les 35 dernières minutes, je serais déçu. Et puis c'était le match où Zidane justement a fait sa masterclass.
Ah bah oui. Ouais,
mais c'est dommage parce que tu l'as pas vu en entier du coup la masterclass de Zidane.
Oui. Non, et j'ai jamais vu ces 35 dernières minutes et je pense que je les regarderai jamais parce que je veux surtout pas ternir mon.
Bon, bah on va pas te spoiler ce qui s'est passé. Hein.
Non.
Je sais jamais, des fois que c'est une surprise,
non,
toi tu regardes.
En termes d'émotion, pour les moins de 30 ans. T'as raison, c'est fabuleux.
Je pense que pour les moins de 30 ans, en majorité, le souvenir commun, ça doit être ce France-Brésil de 2006.
Et en plus, moi j'ai.
C'est un match
de
génération, je pense.
J'ai fait toutes mes études en Angleterre. Donc, je suis un grand supporter du PSG. Donc, j'ai vécu, quand j'étais à l'université, j'ai vécu au pub de l'université le PSG, le Chelsea PSG, le 2-2 avec.
David Luiz et Thiago Silva.
L'expulsion d'Ibra l'expulsion d'Ibra et le but de Thiago Silva après.
Au bout de 30 minutes, ouais, t'as raison.
Voilà.
Flavia, écoute, bravo, c'est sympa, c'est quand même étonnant les anecdotes qu'on peut avoir. Oui, vas-y.
Alors, pour terminer sur cette histoire, en fait, au moment où Cavani efface Courtois et frappe sur le poteau, au moment où il efface Courtois, je me lève et de rage, quand il met la balle sur le poteau, je frappe sur le premier truc qui était à côté de moi et c'est un énorme pylône en béton et un poteau en béton qui était dans le bar et je passe la soirée à faire la fête avec mes potes après la qualif et le lendemain matin, je vais à l'hosto et j'avais deux phalanges de cassé.
Flavien.
Les Anglais m'avaient tellement chauffé depuis le début du match que fallait que
l'adrénaline. Ça sorte
à un moment ou un autre.
Tiens, Flavien, écoute ça.
Zidane qui va tirer le coup franc, ça plonge au but.
Volet plat du pied de Thierry Henry.
Thierry Henry, deuxième poteau. 36e but.
Voilà.
Thierry Henry au bloc.
Sur ce but, ce qu'il faut quand même bien regarder, c'est que Thierry Henry est laissé tout seul. Il n'a pas un défenseur brésilien à 3 mètres.
Ah non, Roberto Carlos, il faisait ses lacets. T'en souviens
pas. Il y en a qui faisait ses lacets.
C'est lacets.
Salut,
la seule
Flavien,
passe
merci.
Décisive de Zidane pour Henry.
Exactement. Ouais. Attention, messieurs, là, on enchaîne avec Valentin, qui est supporter marseillais. Salut, Valentin.
Ouais, salut, l'after. Salut, l'after.
Bonsoir, Valentin.
C'est un plaisir de vous avoir au téléphone.
Bah écoute, nous aussi, t'as quel âge, Valentin?
J'ai 25 ans, moi aussi, comme Flavien. Voilà, pareil. Donc, je me souviens de 2006. Moi aussi, isolé, bien sûr, tout ce qui raconte les France Espagne, les France Brésil, tout ça, c'était incroyable. Mais moi, c'est surtout ce que je voulais parler. Mon premier souvenir, c'est 94 et donc 98 et 2000. Moi, je m'en rappelle pas. Et en fait, mes premiers gros souvenirs foot, c'est la campagne de l'OM en UEFA en 2004 avec Drogba. Et en fait, c'est vraiment l'année où.
T'as quel âge à ce moment-là? T'as quel âge?
Ben, j'ai à peine 10 ans, en fait.
D'accord. Et tu regardes toute la campagne, t'as le droit de la regarder à la télé,
oui,
tes parents te laissent regarder les matchs.
J'ai mon grand frère qui est au stade, qui était abonné au MTP à l'époque.
D'accord, donc ça aide, ouais.
Et mon père supporter, et c'est vrai que les matchs en semaine et tout, c'était compliqué. Mais je me rappelle des matchs entiers sur, en tout cas, contre l'Inter, contre Liverpool, et bien sûr Newcastle. Enfin, avec le record d'affluence à l'époque au Vélodrome et tout, enfin, c'était une année de fou. Et d'ailleurs, ça m'a amené à réfléchir à ça aussi par rapport à... Vous savez, quand vous faites les équipes et tout, les meilleures équipes de l'époque, ouais. Des fois, on entend qu'il y a Drogba. Des fois, il y en a qui mettent Drogba, vous savez, les meilleurs attaquants de l'OM et tout. Bon, Daniel, tu es souvent désaccord, mais tu as raison. Dans l'histoire, c'est pas Drogba. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est pour les gens de ma génération, nous, on n'a pas connu les Schlobar, les Schoblar, les Magnussen.
Tu sais, excuse-moi de te couper.
Donc, c'est Magnusson.
Magnusson, mais pardon.
Je suis pas à chaque fois que les gens mettent Drogba, contrairement à ce que tu as dit, je suis pas toujours fondamentalement en désaccord parce que je sais à quel point pour les mecs de ta génération, même s'il n'est resté qu'un an, cette année-là a été tellement dingue avec cette finale et il a lui été tellement fort. Que je peux comprendre que les mecs le mettent. Après, effectivement, si le panorama de toute l'histoire de l'OM, évidemment qu'il y a d'autres mecs à mettre. Mais je conçois que pour les mecs, et c'est pour ça qu'on faisait d'ailleurs et qu'on a voulu avec la bande aujourd'hui faire ce comparatif générationnel des souvenirs. Et c'est justement pour montrer qu'un mec comme toi, cette épopée-là, elle l'a marqué et la vedette, c'était Drogba. Voilà.
Et c'est ça, parce que moi, vous savez que voilà, avant Drogba, mes souvenirs foot à l'OM, les attaquants, c'était Cyril Chapuis, la Sako et Bakayoko, bien sûr.
Ouais.
Donc, c'est sûr que quand Drogba arrive et qu'il met 30 buts dans l'année avec ses matchs fous, le but de la talonnade, je pense que vous la rappelez.
Bien sûr.
La talonnade contre Newcastle.
Contre Newcastle.
Avec les commentaires, ça passait sur TF1 à l'époque. Hein, c'était les commentaires de TF1. Franchement, ça, c'était. Voilà, c'était et puis après, bon, il y a la tragédie en finale, hein, bien sûr. Bon, en tant que supporter de l'OM, je commençais à avoir... c'était compliqué, quoi. Il y en a eu d'autres, des tristesses, des désillusions en finale.
Le vrai scandale, c'est la double peine en finale.
Ah oui, bien sûr. Merci, Gilbert.
Moi, j'y étais, moi. Parce que moi, j'étais dans les tribunes à tous les matchs. Parce que à l'époque, je commentais encore les matchs. Et j'avais fait toute la campagne de Marseille cette année-là.
Et oui.
T'avais fait Marseille,
c'est le carton rouge.
T'as été puni ou quoi?
Ah non, franchement, je me suis régalé. C'était exceptionnel.
Non, franchement, t'as été puni parce que t'aurais pu faire Monaco, mais le non, numéro 1 bah a fait Monaco, en fait, c'est ça.
Moi, j'ai fait un match de Monaco, j'ai fait le match au Lokomotiv, Moscou, cette année-là.
Ah ouais.
C'était le huitième de finale, c'est ça?
Cette année 2004.
Je crois qu'il faisait à peu près -32, je crois.
Et cette année 2004 est peut-être une des dernières très grandes pour le foot français parce qu'on avait eu deux aventures européennes extraordinaires, celle de Monaco et celle de l'OM.
Moi, celle de Marseille, je l'ai pas regardée parce qu'il jouait enlevé. Marseille, je l'ai pas regardé parce qu'il jouait enlevé de rideau de nous, tu vois, sur l'Europe, mais apparemment, c'était pas mal, ouais.
Non, je me rappelle aussi de Monaco, je me rappelle les matchs de Monaco contre le Real et tout. Alors un peu moins là pour le coup, c'est vrai que j'avais le droit qu'à la première mi-temps et tout comme j'étais petit, mais je me rappelle aussi de la campagne de Monaco. Mais c'était surtout l'OM. D'un côté la super joie et la folie contre Newcastle et après cette défaite horrible contre Valence. Franchement, ça avait été vraiment un traumatisme, quoi. Il y en a eu d'autres, hein. En tant que supporter d'OM, j'en ai vécu d'autres.
Quand tu te remémores l'équipe quand même de l'OM qui était en finale cette année-là, c'était quand même parce qu'il y avait Drogba. Bon, enfin, je sais pas si tu te souviens quand même, il y avait Meïté en défense centrale.
Mais horrible l'équipe. Mais attends, mais tu sais qu'en championnat,
je n'osais pas le dire. Il y en a eu des plus belles, les équipes de l'OM, donc comme quoi.
Mais attends, t'as tout à fait raison. On fait une année pourrie en championnat, on finit 7e, je crois. Et tu sais que vous l'avez vu la dernière fois au téléphone, mais on vire Alain Perrin cette année-là, en cours de saison.
Et c'est Anigo qui est sur le banc.
C'est Anigo qui reprend le truc et on finit avec lui.
Attends,
sur le banc.
J'essaie de me souvenir. Barthez.
Oui.
Meïté Mdani en défense centrale.
Oui. Je sais pas si Mdani joue la finale, mais oui.
Habib Bey. C'était pas Ferreira l'autre latéral, Demetrius Ferreira.
Tout à fait.
Au milieu, il y avait Celestini.
Oui, qui est rentré, qui rentre dans la finale, qui rentre, je crois. Ouais. Et Meriem, il y avait quand même Meriem.
Kamel Meriem, il y avait Batless.
Oui, il y a Batless aussi.
Et devant, t'as Steve Marley et Drogba. C'est quand même pas l'équipe.
Et Flamini,
c'était pas mal.
Oui.
Marley et Drogba devant, c'est pas mal quand même.
Oui.
Il y a pire.
C'était une équipe, c'était une année où vraiment on s'est éliminé rapidement de toutes les coupes. Ça, on fait une année, c'est vraiment une année pourrie. Et puis à ça, un peu comme en 2018 avec Garcia en fait. Hein.
Bon, par qui vous êtes éliminé en Coupe de France, je me souviens plus.
Oh, je sais plus. C'est qui, c'est le PSG quand tu dis ça? J'ai été sûr.
Ah, oui, oui, c'était le fameux match au stade Vélodrome.
Et c'est un sacré match, ouais. Où Drogba marque d'ailleurs, et ça doit être Paoletta qui marque. Ouais. Ah, ouais.
C'est possible. Ouais. En tout cas, Gilbert, juste pour finir sur un truc.
Vas-y, pour
c'est Sorin qui a marqué.
C'est juste pour vous dire, voilà, j'ai 25
Sorin,
ans, un peu comme l'auditeur de tout à l'heure. Je vous écoute vraiment depuis le début. Et genre, vous avez contribué à ma culture foot, mais depuis que je suis tout petit. Donc en fait, vous m'avez endoctriné sur beaucoup de choses. Donc je voulais vous remercier pour ça déjà, pour être toujours là des années depuis toutes ces années, et d'être là surtout dans cette période de confinement où voilà, on n'a pas grand chose à faire. Donc vous écoutez, ça fait du bien, et franchement ça me fait super plaisir d'être avec vous ce soir.
Voilà. Bah, écoute Valentin, merci de ta fidélité et à très bientôt.
Merci, j'embrasse tout le monde.
Ciao Valentin.
Salut.
Merci les gars.
Bonne soirée. Bon alors il y a tellement d'appels là, je suis un peu perdu moi. Allez, je vais prendre au hasard. Tiens, David qui est avec nous. Salut David.
Salut Gilbert, salut à tous.
David, bonsoir, David. T'as quel âge ?
Moi j'ai 28 ans. Je suis à la limite.
Ah, t'es à la limite. Ton tout premier souvenir, c'est quoi ?
Mon tout premier souvenir, c'est pas celui que j'allais raconter. C'est forcément. Moi je suis né en 91, c'est la Coupe du Monde 98. Mais où j'apprenais les drapeaux, je me souviens.
T'étais vraiment petit là. Hein.
Ouais, j'avais 7 ans, mais mon père était allé voir Brésil-Maroc, je me souviens, à Nantes. Et il était revenu parce que finalement. Il était toujours dans des magouilles, il avait revendu ses places, enfin c'est n'importe quoi. Et moi, je guettais la télé pour voir si je voyais mon père. En fait, après, j'avais appris qu'il avait même pas vu le match et tout. Mais bon, j'appelais pas pour raconter ça à la base.
Alors, on t'écoute, du coup, vas-y.
En fait, moi, mon premier souvenir, on va dire, c'est pas mon premier souvenir, mais mon premier souvenir très, très, très marquant. J'ai 11 ans, on est en 2002, et moi, il faut savoir que je suis d'origine portugaise, en fait. Et je viens d'un petit village dans les collines, presque les montagnes, dans le centre du pays, d'une quarantaine d'habitants. Et dans ce village-là, nous, il n'y avait pas trop la télé, en fait. On avait 3-4 chaînes, mais on n'avait pas la télé câblée. Et à 10 km de ce village-là, on avait des copains qui, des fois, venaient nous voir et tout, pour la journée, pour faire des 400 coups, quoi. Et ils nous disaient, les gars, il y a un joueur à Sporting, il est trop fort, il s'appelle Ronaldo, comme Ronaldo le Brésilien. Il est super fort et tout. Franchement, faut que vous veniez le voir et tout. Et parce que là-bas, dans leur village, ils avaient un bar qui avait la télé câblée. C'était le grand luxe, quoi. Et en fait, on a été le voir une fois jouer. Et mes copains et moi dans mon village, on est tellement tombés amoureux qu'après, toutes les semaines, on faisait 10 km à pied, 10 km retour, aller-retour. Ça faisait 20 km. À travers champs, à pied, nos grand-mères à nous tuer à chaque fois parce qu'elles s'inquiétaient à fond. Et en fait, juste pour aller voir Ronaldo, parce qu'il avait une espèce d'ardeur d'effervescence dans les pieds, on était tombés fous amoureux de lui. Et en fait, c'est bizarre, mais à l'époque, je sais pas si les jeunes se souviennent, le fait qu'il s'appelle Ronaldo comme Ronaldo, ça lui conférait aussi une espèce d'aura un peu c'est bizarre.
Et oui.
Et en fait.
Ouais, mais c'était plus bizarre qu'autre chose parce qu'on se demandait si c'était pour de vrai ou pas. Donc on l'appelait Cristiano, on n'osait pas trop dire Ronaldo.
Ça faisait partie du personnage dès le début.
Et d'ailleurs, c'est de là qu'est venue cette phrase que, après coup, aujourd'hui, des années plus tard, je trouve stupide, c'est qu'on continue à dire Ronaldo le vrai.
Ça m'énerve.
Non, mais il faut arrêter de dire ça parce qu'en fait, parce qu'au début, ça vient en fait du début. Quand t'as eu un mec aussi fort que Ronaldo le Brésilien qui portait ce nom-là, forcément c'était un petit peu étonnant quoi.
Et le pire c'est qu'on faisait ça toutes les semaines et tout, on faisait les 20 km à pied. Alors en plus des fois parce qu'ils jouaient pas tous les matchs, donc des fois on se déplaçait pour rien parce que des fois on arrivait parce qu'on n'avait pas les compos nous avant en fait. Donc des fois ils jouaient pas, donc on avait fait le déplacement pour rien entre guillemets parce que moi à la base je suis même pas supporter de Sporting. Et surtout des fois comme c'est une terre de chasse dans ma région, et ben on se cachait dans les coffres des chasseurs sans qu'ils le sachent dans les jeeps en fait. Dans les coffres, et une fois je me suis retrouvé avec mon cousin et il y avait des têtes empaillées de cerfs et de sangliers dans le coffre avec nous. juste pour aller voir Ronaldo en fait, et ça a créé une espèce de lien comme ça, on l'a suivi, c'était en 2002, je me souviens, 2002-2003, j'avais 11 ans quoi, et ça a créé une espèce de lien indéfectible. Et il y a plein de Portugais comme ça qui ont des anecdotes sur le début de Ronaldo comme ça, qui était virevoltant, tout frêle, et très vite c'est un peu devenu l'enfant du pays quoi. Et l'autre deuxième souvenir très très fort, l'équipe vraiment que je supporte moi c'est le Portugal, et il se trouve que l'Euro 2000, Et ça, c'est très intéressant vis-à-vis de la des perceptions différentes que peuvent avoir deux pays d'un même match.
Et bien sûr.
Les Français.
Tous les binationaux connaissent ça.
Ouais, exactement. Et en fait, les Français sous-estiment énormément le traumatisme qu'a constitué pour les Portugais la demi-finale à l'Euro 2000, France-Portugal. C'est-à-dire que moi...
Il n'y avait pas main, d'Abel Xavier, t'es d'accord? Il n'y avait pas main.
En fait, aujourd'hui, je le reconnais volontiers qu'il y avait main. Mais en fait, Daniel, tu ne peux pas si bien dire, c'est que pour beaucoup de Portugais, ce soir-là, en tout cas, même d'ailleurs encore aujourd'hui...
Il y a eu un complot, Ouais.
En fait, c'est tout bête, hein, ça peut peut-être paraître solennel et pompeux ce que je vais dire, mais je vous assure que j'avais 9 ans. Et en fait, j'ai découvert quelque chose ce soir-là. J'ai découvert, c'est la première fois que je ressentais un sentiment d'injustice aussi fort.
L'injustice.
C'était un traumatisme très longtemps pour moi, en fait. Et ça a été une espèce de série 82 pour les Portugais pendant longtemps, en fait, ce truc. Même dans ma famille, longtemps, il y a eu la... C'est horrible à dire, alors qu'il y a des gens qui vivent en France, mais il y a beaucoup de binationaux, il faut dire la vérité, c'est comme ça, ont eu la haine des Français à cause de ça pendant longtemps, à cause de la main d'Abel Xavier, en fait.
C'est ce que peut faire le foot.
Le pire, c'est qu'Abel Xavier, encore aujourd'hui, il dit qu'il n'y avait pas main, celui-là.
Après, c'est la mauvaise foi. Bon, dans le foot...
C'est comme Schumacher qui dit qu'il n'y avait pas faute.
Et en fait,
qui dit qu'il n'y a pas pénalty.
Ce qui est terrible, parce que Daniel, et l'autre jour, vous parliez de la rareté des matchs. Il se trouve que quand t'es d'origine portugaise, que toute ta famille supporte le Portugal, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, ton équipe, tu la vois que tous les deux ans, à l'Euro et à la Coupe du Monde. Et ce qui était terrible, moi, c'est que c'est la première fois que je voyais l'équipe du Portugal avec le maillot grenat, super beau, ils avaient des cheveux longs, etc. et tout. Et cette équipe dont j'étais tombé amoureux en phase de poule contre l'Angleterre, la Roumanie, ensuite l'Allemagne, ensuite la Turquie, et bien en fait, au moment où elle se fait éliminer de façon brutale comme ça, et bien en fait, c'est comme un amour d'été qui te dit c'est brutal, c'est injuste, on se revoit que dans deux ans maintenant, en fait. Et c'est horrible parce que mon équipe, elle me quittait comme ça, en fait. Elle me quittait comme ça. Et mes héros du mois de juin, ils me quittaient. Et je me disais, en fait, ça y est. Je me souviens de m'être retourné vers mon père et je lui avais dit, en fait, papa, là, pendant deux ans, je les vois plus, là, Victor Baya, Figo et tout. Il me disait, non, mon fils, c'est comme ça, quoi.
C'était pas Nuno Gomes, ton joueur préféré, avec ses cheveux longs et tout. Il était beau, Nuno Gomes. Évidemment, il était beau.
En plus, il met un de ses buts contre la France.
Bien sûr.
Surtout qu'en 2002, le Portugal, c'est la cata intégrale. Le match sous la pluie, là, en Corée du Sud.
C'est terrible parce qu'en fait, les matchs éliminatoires, on les voyait pas, nous. Enfin, quand t'es portugais et que tu vis en France, tu ne vois pas les matchs éliminatoires.
Maintenant, tout le monde les regarde. Ils passent les matchs du Portugal sur les chaînes françaises.
Oui, mais à l'époque, on les voyait pas. Donc, en fait, à chaque fois, c'était brutal. Et t'avais une espèce de pression qui montait pendant deux ans. Et je me souviens, au lycée, quand j'avais lu, ça peut paraître bête, le parallèle, quand j'avais vu Voyage au bout de la nuit pour la première fois de Céline, il y avait une phrase qui m'avait marqué. Et Céline raconte dans les premières pages, il écrit, on est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Et bien moi, France-Portugal en 2000, ça m'a dépucelé de l'horreur. C'est-à-dire que vraiment, quand t'es petit, vraiment, tu vis les choses, forcément, les émotions sont décuplées. Et je vous assure que ça a été un traumatisme pendant longtemps. Bon, après, on a eu la Grèce en 2004.
T'as été dépucelé de la volupté et là, ça a été mieux tout de suite.
Oui, forcément.
Un peu plus tard, quand même.
La volupté, c'est Ronaldo, en votre côté. Mais enfin, voilà, quoi.
Merci, donc,
tu connais la légende. Tu connais la légende de pourquoi Ronaldo s'appelle Ronaldo?
C'est Ronald Reagan, bien sûr, son père était fan.
Mais en fait, alors, essaye de m'expliquer pourquoi il y a autant, je sais pas s'il y en a autant, mais de Portugais qui sont fans des présidents américains. Parce que Daniel Kennedy, le joueur qui est passé au PSG, son père était fan de JFK. Ça. Et il l'avait appelé Kennedy pour ça aussi. Mais il avait oublié un N à l'état civil. Il avait qu'un seul N.
Il avait oublié ses pieds aussi quand il est arrivé.
Je ne sais pas si c'est une explication, mais alors le Portugal a évidemment une image de pays méditerranéen. Mais il faut savoir que c'est un pays qui a été très tourné, en fait, de tout temps, a été très tourné vers les anglo-saxons, en fait. Et l'alliance historique Angleterre-Portugal, c'est quelque chose qui dure depuis des siècles. Et il y a une espèce de fond culturel comme ça qui peut-être peut expliquer cet attrait des Portugais.
Ils sont fans des présidents américains.
Ouais, voilà, quoi.
C'est marrant. Ronald Reagan,
vous aurez bientôt un Trump au PSG d'ici une quinzaine d'années, les gars.
Un joueur qui va s'appeler Donald.
Donald Goumesh, il va arriver.
Donald.
David, c'était sympa. Merci, en tout cas. C'était super.
Merci à vous, les gars.
Salut.
Comme tous les autres, vous avez contribué à, à façonner ma culture foot. Et enfin, voilà, vous êtes extraordinaire, ne changez pas. J'étais venu vous voir
hein,
quand vous étiez passé. Et puis vraiment, c'est voilà, c'est vous êtes formidable, ne changez rien, quoi. Voilà.
Bah, dis-moi, et si t'es à Reims, t'aurais pu prendre la caisse des chasseurs pour aller voir Jérôme Rotel à 3. Hein, tu l'as pas fait.
Non, mais
tu l'as pas fait.
Mais Jérôme a laissé un très bon souvenir à Troyes. Hein. Ce qui est beau dans la carrière de Jérôme, c'est qu'il a, il a laissé une trace dans le cœur des supporters de chaque club dans lequel il est passé. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, en fait.
Et merci. Eh ben, c'est la vérité.
Salut,
voilà,
David.
On arrêtera là-dessus. C'était le meilleur auditeur de
fin de l'émission.